L'Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, je vous laisse écouter un peu plus longtemps que d'habitude le trio Wanderer interprétant ce trio Dumka de Dvorak, parce que le trio Wanderer vient de fêter ses 30 ans et a réenregistré ce trio, c'est les 6 trios Dumki, je crois on dit au pluriel, de Dvorak, et vous trouverez la référence de cet enregistrement sur notre site. Merci de nous avoir rejoints pour cette première des deux émissions thématique traditionnelle de printemps qui portera sur le Royaume-Uni et au cours de laquelle, avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, avec Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, nous recevrons Pauline Schnapper. Pauline Schnapper qui est l'auteur à la documentation française dans la collection Reflex Europe, d'un livre intitulé « Le Royaume-Uni doit-il sortir de l'Union européenne ?» Pauline Schnapper, bonjour.
Bonjour.
Pauline Schnapper, vous êtes normalienne. Quand je dis « nous vous recevons », c'est Nicole Niesotto, professeure titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vous êtes donc, disais-je, Pauline Schnapper, normalienne, agrégée d'anglais, docteur en sciences politiques, spécialiste du système britannique et de la vie politique au Royaume-Uni. Vous êtes membre de l'Institut universitaire de France et professeur de civilisation britannique à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Avec vous, nous allons, je l'ai dit, nous intéresser à la situation du Royaume-Uni. Alors que, à l'heure où nous enregistrons cette émission, le Parlement de Westminster vient d'adopter le projet de loi qui autorise la Première ministre Theresa May à activer l'article 50 et donc à déclencher le Brexit. Le 23 juin dernier, les électeurs britanniques avaient voté à 51,9% en faveur de la sortie de l'Union européenne. Le scrutin qui avait déjoué les pronostics des sondeurs avait révélé de profondes différences entre les différentes nations qui forment le Royaume-Uni. Si l'Angleterre et le Pays de Galles ont respectivement voté à 53,4% et à 52,5% en faveur du Brexit, les électeurs écossais s'y sont opposés à 62% et les Irlandais du Nord à 55,8%. Le Premier ministre David Cameron, initiateur du référendum, a présenté sa démission après l'annonce des résultats du vote. Theresa May lui a succédé au 10 Downing Street et à la tête du Parti conservateur. La nouvelle chef du gouvernement s'est prononcée pour la mise en œuvre d'un Brexit clair et net, sous la forme d'un nouveau partenariat équitable et, je cite, d'un accès le plus large possible au marché commun, fin de citation, délié de la politique commerciale commune et des tarifs extérieurs communs qu'elle implique. Theresa May, qui avait affiché son intention de déclencher l'article 50 du traité sur l'Union européenne relatif à la sortie de l'Union sans l'aval du Parlement, a dû attendre, sous la contrainte de la Cour suprême, le vote de la Chambre des communes du 13 mars, l'autorisant à lancer les négociations avec Bruxelles. Ces négociations devraient commencer avant le 31 mars et aboutir d'ici 2 ans au plus tard. Londres aborde cette période avec une situation économique solide. Le Royaume-Uni a connu une croissance de 2% en 2016 et anticipe un chiffre équivalent en 2017. Le chômage touche 4,8% de la population active, le plus bas depuis l'été 2005, et le déficit public est passé à 2,6% du PIB. La baisse de la livre a néanmoins conduit à une hausse des prix des produits importés et pourrait conduire à une baisse des investissements ainsi qu'à une remontée des taux d'intérêt. Ces éléments ont conduit le chancelier de l'échiquier, Philip Hammond, à, je cite, « se garder de toute autosatisfaction » et à annoncer la poursuite d'une politique d'austérité budgétaire dans la perspective d'éventuelles mesures de relance. Londres est de surcroît confrontée au retour de la question de l'indépendance de l'Écosse. La première ministre écossaise et leader du parti indépendantiste, Nicola Sturgeon, a annoncé qu'elle demanderait au Parlement d'Édimbourg l'autorisation d'organiser un nouveau référendum avant la fin des négociations sur le Brexit. Cette nouvelle consultation doit permettre à l'Écosse de décider de son avenir, a dit la première ministre écossaise, avant qu'il ne soit trop tard. Pauline Schnapper, d'après vous, le Brexit est-il l'aboutissement logique des rapports ambigus qu'entretiennent Londres et Bruxelles ? Comment le Parti travailliste peut-il se ressaisir face à cette situation et à la division des conservateurs sur les conditions de sortie de l'Union? Quels enseignements tirer du Brexit sur l'état de la société outre-Manche? Le divorce avec l'Union européenne est-il la première étape d'un mouvement qui, à terme, mènera à la désunion du Royaume? Voilà quelques-unes des questions que nous aimerions aborder avec vous, mais selon la tradition, vous êtes parfaitement libre de n'en choisir aucune et de répondre à celles que vous pensez devoir vous poser, si j'ose dire, à vous-même. Pauline Schnapper.
Alors, je me souviens surtout de la première que vous avez posée, parce qu'il y en avait, beaucoup. Peut-être un mot, effectivement, sur l'historique rapide, enfin, pour expliquer comment on en est arrivé là. Vous parliez de suite logique d'une évolution entamée depuis longtemps. Je crois qu'effectivement, c'est le cas. Le résultat du référendum est d'un certain côté une surprise, en tout cas l'a été pour beaucoup de Britanniques, y compris ceux qui faisaient campagne pour sortir de l'Union européenne. Mais en même temps, si on regarde un peu l'évolution au moins des 20 dernières années et peut-être même en allant plus loin dans le passé, on voit qu'il y a une certaine logique à ce résultat. Pourquoi cela? Depuis 20 ans, en gros, depuis le traité de Maastricht, on a vu la montée au Royaume-Uni d'un mouvement eurosceptique, le terme même est né là-bas, principalement au sein du Parti conservateur, puisque à ce moment-là, le Parti travailliste, qui avait une vieille tradition anti-européenne qui remontait aux années 60-70, était devenu pro-européen, avec Tony Blair en particulier. Mais au sein du Parti conservateur, on a vu donc la montée progressive d'un rejet de l'Union européenne telle qu'elle était en train d'évoluer et qui était symbolisée par la monnaie unique du traité de Maastricht et l'union politique qui était envisagée aussi. Les conservateurs ont progressivement accepté l'idée de plus en plus répandue que ça n'était plus la même Europe qui se dessinait que celle à laquelle ils avaient adhéré dans les années 70, celle d'un marché commun essentiellement. Alors, ce n'est pas tout à fait que ça, mais enfin, essentiellement un marché commun. Et que cette avancée prévisible vers une union économique et monétaire d'une part, une union politique, ça ne représentait plus l'Europe que souhaitaient les Britanniques. C'était une remise en cause de la souveraineté, notamment du Parlement de Westminster. Et ce sentiment a monté au sein du Parti conservateur. Il a conduit à la création d'une espèce de scission du parti avec la création de UKIP, le parti anti-européen et anti-immigration, qui est au départ formé d'anciens du Parti conservateur. Et donc on a eu ce double mouvement dans le parti et à l'extérieur, soutenu bien sûr par une bonne partie de la presse. Il y aurait beaucoup à dire sur la presse populaire britannique, comme vous savez. Et donc ce mouvement a mûri, a progressé au cours des années 90 et 2000, malgré les tentatives du Parti travailliste et de Tony Blair de réconcilier, je dirais, les Britanniques avec l'Europe. Ça a été quand même un gros échec de Blair. Pendant donc entre 97 et 2007-2010 avec Brown. Donc dans l'opposition, le Parti conservateur est devenu de plus en plus anti-européen, et quand David Cameron a pris la tête du parti en 2005, il a dû faire avec, lui-même étant un peu intéressé par l'Europe et je dirais suivant le mouvement critique vis-à-vis de l'Union européenne. Au point, une fois Premier ministre, de devoir céder à la pression de ses propres députés pour promettre ce référendum. Et là où il a fait preuve d'une grande naïveté, peut-être, c'est en pensant qu'il pourrait renégocier d'une part les conditions d'adhésion de l'Union européenne, donc réformer ce qu'il appelait réformer l'Union européenne, et d'autre part convaincre une majorité de ses électeurs de rester dans cette Union européenne réformée.
Thierry Pêche.
Vous faites une explication de la sécession britannique avec le projet européen par des facteurs qui sont liés à la culture politique, à l'évolution de la culture politique britannique. Et vous rappelez d'ailleurs les inerties, les facteurs de longue période dans cette culture politique. C'est très bien. Bon, c'est précisément ces facteurs qui expliquent le statut assez particulier qu'avait le Royaume-Uni dans l'Union européenne, puisque ils n'étaient pas dans l'euro, ils n'étaient pas dans Schengen, ils avaient des contributions particulières. Tout avait été fait pour respecter d'une certaine façon l'insularité britannique, y compris au sein de l'Union européenne. Mais il y a également, et je pense qu'ils sont plus décisifs pour s'expliquer le Brexit, des facteurs sociologiques qui n'existaient pas il y a encore 15-20 ans au Royaume-Uni. Le Brexit a vu se mobiliser contre le projet européen des catégories de la population qui sont des catégories populaires, des catégories qui ne sont pas dans le cœur de la métropole londonienne active, brillante, mondialisée, etc. Et des électeurs qui ont été motivés par des thématiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que vous avez développé à l'instant. L'immigration, par exemple, vous n'en avez pas parlé. Donc, j'ai envie de vous dire, est-ce que les facteurs que vous mettez en avant, qui sont des facteurs de culture politique et d'histoire politique, y compris des partis, sont réellement éclairants pour expliquer ce qui vient de se passer, qui, à mon avis, a plus à voir avec la sociologie britannique.
Pauline Schnapper.
Oui, enfin, la sociologie en question, elle est inséparable à la fois de ce qui se passe sur le continent et de la question européenne. La question de l'immigration, qui a été absolument centrale dans le référendum, est inséparable de la question européenne. Pourquoi ? Parce que l'immigration qui a été rejetée par une bonne partie des électeurs britanniques, c'est pas une immigration ancienne des pays du Commonwealth, etc. C'est une immigration européenne qui a commencé en 2004 quand Tony Blair a pris la décision, contrairement aux autres pays de l'Union, de ne pas imposer de période de transition avant l'ouverture des frontières à la libre circulation des nouveaux entrants. Et donc c'est l'afflux impressionnant Polonais en particulier, mais Européens de l'Est en général, à partir du 1er janvier 2004, qui a, pas tout de suite, mais à partir de, en particulier le déclenchement de la crise financière et de la crise économique, donc 2007-2008, a entraîné un mouvement de rejet progressif d'une partie de la population, celle qui a voté Leave, donc pour sortir l'Union européenne, avec l'idée de fermer les frontières, ou en tout cas de reprendre le contrôle des frontières et de n'accepter que les immigrés européens que cette population souhaitait. Ce qui, par ailleurs, n'arrivera pas. Mais ça, c'est une autre question. Donc, si vous voulez, la dimension sociologique que vous citez, elle est inséparable de la dimension politique. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, bien sûr. Et quand on regarde la sociologie électorale donc du référendum, il y a effectivement deux clivages très... Enfin, même trois clivages très intéressants qui expliquent en grande partie le vote. Il y a un clivage d'âge. C'est-à-dire que les jeunes ont voté pour rester et les personnes âgées ont voté pour sortir, avec la nuance que, au Royaume-Uni comme ailleurs, en particulier en France, les jeunes votent moins. Donc il y a eu un gros problème d'abstention des jeunes qui aurait pu vraiment renverser le résultat. Le deuxième clivage, c'est un clivage, disons, d'éducation, qui rejoint le clivage économique, puisqu'évidemment les deux sont liés. Donc plus on était diplômé, plus on votait pour rester, et inversement. Et le troisième clivage, qui est lié évidemment au deuxième, c'est le clivage géographique entre d'un côté les grandes villes, Londres en premier, mais aussi d'autres grandes villes, Manchester, les villes universitaires, et là on revient au clivage précédent sur l'éducation, qui ont voté pour rester, et les petites villes et les zones rurales, et côtières en particulier, pauvres, qui ont voté pour sortir.
Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ces gens se sont mobilisés tout à coup contre l'Europe ?
Pour une série de raisons, dont celle dont on vient de parler. Et puis, alors, il y a des raisons, je dirais, à la fois nationales et globales. On a beaucoup parlé, en comparant avec le cas des États-Unis, par exemple, de cette population des « left behind », de ces gens qui sont restés sur le bord de la route de la mondialisation, qui n'ont pas profité de la mondialisation. Je crois que c'est un facteur qui entre en jeu, tout à fait. Il y a aussi des facteurs, alors là, purement nationaux, qui renforcent cette impression d'avoir été abandonné, qui est là le rejet de Londres, pas tant de Bruxelles, ou pas tant du monde ouvert et globalisé, mais des politiques d'austérité qui ont été quand même imposées depuis 2010 et qui sont d'une brutalité dont on n'a pas idée en France. Enfin, je veux dire, sans aller jusqu'au film de Ken Loach, il y a quand même une part de vérité dans ce qui est décrit dans ce film, avec des baisses dans les aides sociales qui ont particulièrement affecté les zones pauvres du Nord en particulier et de l'Est de l'Angleterre.
Nicole Nisotto.
Oui, il reste quand même un mystère. Et la question que moi je voudrais vous poser, c'est pourquoi maintenant ? Pourquoi les Anglais ont choisi de quitter l'Union européenne qui correspondait le plus aux vœux britanniques, c'est-à-dire depuis 20 ans, depuis le traité de Maastricht, les Anglais avaient milité pour que l'Europe soit un grand marché, étendu le plus loin possible, si possible, jusqu'au Kazakhstan, voire la Sibérie, pour qu'il n'y ait pas d'Europe politique, pour qu'il n'y ait aucune montée en puissance de l'idée fédérale, pour que l'Europe de la défense que voulaient les Français soit minimale. Autrement dit, depuis 10 ans, ils avaient réussi à imposer cette Europe grand marché au détriment de l'idée que défendait plutôt la France d'une Europe puissance, y compris dans la mondialisation. Et ils avaient fini par gagner. L'élargissement s'était fait sans approfondissement. La Commission avait adopté une politique ultra-libérale de dérégulation assez large quand même de l'ensemble du marché. Et depuis la crise de 2008, le Conseil, c'est-à-dire les États membres, avaient repris le contrôle des politiques sur marginalisant complètement la Commission. Donc pourquoi sortir au moment où l'Europe est devenue britannique?
Je crois que vous mettez le doigt sur le paradoxe fondamental de ce vote, c'est-à-dire que les Britanniques sortent de l'Union européenne précisément au moment où l'Union européenne ressemble le plus à ce qui a toujours été les préférences des différents gouvernements britanniques, une Europe largement intergouvernementale autour d'un marché unique, un peu de coopération en matière de politique étrangère et de défense, un peu de coopération en matière de lutte antiterroriste, beaucoup d'élargissement, pardon, et pas grand-chose d'autre. Alors, comment expliquer ce paradoxe? Je crois que on ne peut le comprendre que par l'extraordinaire déconnexion qu'il peut y avoir entre les milieux, disons, politico-médiatiques de Londres, qui connaissent le fonctionnement de l'Union européenne, qui négocient à Bruxelles, qui ont des relations avec les partenaires sur le continent, et l'énorme majorité de la population qui ne s'intéresse pas à l'Europe, ne connaît pas le fonctionnement des institutions européennes. C'était frappant, si vous voulez, au moment de la campagne sur le référendum, quand on faisait des espèces de micro-trottoirs dans les rues, les gens n'ont pas la moindre idée de la façon dont fonctionne l'Union européenne. Et ce n'est pas simplement de leur faute, c'est aussi parce qu'ils sont abreuvés d'une espèce de propagande anti-européenne par une bonne partie des médias depuis des décennies. Et donc, tout ce que vous venez de dire, qui est absolument exact, ce sont des choses dont n'ont pas la moindre idée la plupart des électeurs britanniques. Et il y a une dimension, si vous voulez, passionnelle dans le rejet de l'Union européenne outre-Manche, qui est liée au fait qu'il n'y a jamais eu d'identification à l'Europe, on voit bien par rapport à d'autres pays, il y avait une approche très utilitariste de l'Europe, pas d'éducation sur l'Europe auprès des jeunes. Enfin, je veux dire, ça vient dans un climat général qui n'a jamais été pro-européen et un climat d'ignorance totale qu'il ne faut pas sous-estimer, je crois, qui a joué un rôle.
Michael Avigal.
Oui, alors vous expliquez très très bien les facteurs antérieurs qui expliquent le Brexit. J'avais très envie qu'on s'arrête un tout petit peu aux facteurs extérieurs parce que c'est ce qui domine le débat allemand. En Allemagne, on culpabilise énormément. Il y a beaucoup, et notamment dans les milieux des affaires, des gens qui disent ben, finalement, c'est notre gestion de la crise des réfugiés qui a en quelque sorte engendré ce vote et qui a fait pencher la balance. Et il y a aussi vous souvenez tous le moment où David Cameron avait voulu négocier que il n'est plus obligé de payer les aides sociales aux ressortissants de fraîche date, et où il a échoué avec cette démarche qui était une façon de répondre à ce que vous disiez sur cet afflux de notamment d'Européens de l'Est, et ça a échoué. Et donc, on mentionne ces facteurs en Allemagne pour dire, ben, finalement, nous sommes aussi en quelque sorte responsables de ce qui s'est passé. Et c'est très intéressant parce qu'on voit bien que la démarche, quand même assez punitive, en tous les cas, en fait, le gouvernement français dit maintenant, il y a le Brexit, donc il faut que l'Europe se défende. Elle est très contestée en Allemagne et on hésite, on se demande est-ce qu'il ne faut pas trouver d'autres moyens pour, après un Brexit, finalement, avoir toujours cette même niveau d'échange, en quelque sorte, notamment commercial. Donc, est-ce qu'il y a une culpabilité en quelque sorte européenne dans les facteurs qui expliquent
le terme de culpabilité est peut-être un petit peu fort. Je crois que les deux crises, les deux grandes crises européennes des dernières années n'ont sûrement pas créé le Brexit, mais ont alimenté un sentiment anti-européen qui était déjà là. La crise de la zone euro a certainement joué un rôle. Je ne sais pas si vous vous souvenez des titres de la presse au moment de la crise des dettes souveraines et de la crise grecque. C'était, mais vous voyez, on vous l'avait bien dit, une monnaie unique rassemblant des économies aussi différentes que celles de l'Allemagne et de la Grèce dans la même monnaie, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'on a bien fait de rester à l'extérieur de la zone euro? Et de toute façon, la zone euro va s'écrouler. Ça, c'est quelque chose qu'on a entendu partout, y compris dans la presse la plus sérieuse. Et si vous regardez, par exemple, les titres du Daily Telegraph encore aujourd'hui, ils ne cessent d'annoncer la fin de l'Union européenne pour les mois ou les années qui viennent. Ça, c'est un discours absolument récurrent. Donc, je ne dirais pas que ça a été central, mais ça a alimenté ce sentiment déjà existant. Et même chose pour la crise des réfugiés de 2015-2016, qui a été exploitée, alors sans la moindre vergogne, par les partisans du Brexit, en faisant une espèce d'amalgame total sur les réfugiés syriens qui vont arriver, la Turquie qui va entrer dans l'Union européenne, tout ça a été mélangé, et les immigrés d'Europe, tout ça a été mélangé dans une espèce de fatras, mais très efficace, auprès d'un certain nombre d'électeurs. Et il y a un poster en particulier, enfin, qui a fait scandale quelques jours avant le référendum, donc avant le 23 juin, Nigel Farage, donc leader de UKIP, a sorti une affiche qui montrait une route des Balkans avec donc des centaines de réfugiés marchant les uns derrière les autres, qui reprenait exactement l'image équivalente à une autre des années 30, utilisée par la propagande nazie, donc d'où le scandale, sur le thème « Voyez ce qui nous attend ». Évidemment, l'ironie de tout ça, si on peut dire, c'est que bien sûr, les Britanniques n'ont pas accueilli un seul réfugié syrien arrivé par les Balkans. Ils en ont accueilli quelques-uns arrivés directement des camps de réfugiés du Liban et de la Jordanie, mais n'ont accueilli personne, contrairement aux Allemands. Donc, mais tout ça a été effectivement utilisé, exploité. Pour revenir sur la culpabilité allemande, je crois qu'il ne faut pas aller jusque-là. Ça a été un élément parmi beaucoup d'autres.
Ne retirons pas aux Allemands l'habitude et peut-être même maintenant le plaisir de la culpabilité. Ça nous rassure beaucoup. Vous avez souligné tout à l'heure le côté vote contre Londres, du vote en faveur du Brexit. Et vous venez de rappeler à l'instant, en prenant l'exemple du Daily Telegraph, qu'un certain nombre d'observateurs britanniques prédisent l'éclatement de l'Union européenne à un terme plus ou moins proche. Mais que prédisent-ils à propos du Royaume-Uni?
Alors là, on est en pleine crise, évidemment, depuis quelques jours. L'éclatement du Royaume-Uni ne peut plus être exclu. On en parlait déjà avant le référendum, et les partisans du Remain agitaient la question en disant « Mais attention, vous êtes fous. Non seulement il y aurait des conséquences pour nous si nous quittons l'Union européenne, mais une autre conséquence qui serait quand même un comble venant de la part de conservateurs, qui se présentent comme le parti unioniste par excellence entre l'Angleterre, l'Écosse, Pays de Galles et l'Irlande du Nord, ce serait un comble que ce soit le parti conservateur qui soit à l'origine de l'éclatement du pays. On ne peut pas l'exclure. Alors, moins évidemment, le Pays de Galles ne pose pas de problème particulier. L'Irlande du Nord pose un énorme problème, mais j'allais dire d'une nature peut-être un peu différente. On peut y revenir si vous le voulez. Le problème immédiat, c'est celui de l'Écosse, qui a donc voté en 2014, il y a 2 ans et demi seulement, ça paraît très loin, mais les événements s'accélèrent tellement, pour rester dans l'Union britannique, dans le Royaume-Uni, à 55%. Pour 45% pour devenir indépendant, ce qui était quand même un chiffre loin d'être négligeable, et surtout qui a voté, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, pour rester dans l'Union européenne à plus de 60%. Donc là, pour le coup, aussi une majorité très claire. Là où les choses deviennent compliquées, alors les nationalistes écossais veulent profiter de ce hiatus pour dire « nous voulons rester dans l'Union européenne, donc soit au minimum, vous nous permettez de rester dans le marché unique, soit... Et comme c'est pas vers ça qu'on se dirige, puisque vous nous promettez un hard Brexit, sans maintien dans le marché unique, nous voulons devenir indépendants pour pouvoir rester dans l'Union européenne. Là où les choses se compliquent, enfin, il y a deux raisons. D'une part, la situation économique de l'Écosse, et d'autre part, le fait que le mouvement pro-européen est un peu contradictoire avec le mouvement pour rester dans le Royaume-Uni. Autrement dit, est-ce qu'on a moins à perdre en restant dans le Royaume-Uni et en sortant de l'Union européenne, ou l'inverse, et notamment sur le plan économique? Alors, la situation économique de l'Écosse aujourd'hui n'est pas brillante. Pourquoi? À cause de la baisse du prix du pétrole, essentiellement. Vous savez que le pétrole de la mer du Nord est une des grosses et rares ressources propres à l'Écosse, qui par ailleurs est quand même très dépendante de Londres du point de vue financier et des échanges avec l'Angleterre par ailleurs, beaucoup plus que ces échanges avec l'Union européenne. Donc il n'est pas du tout certain qu'il y ait une majorité aujourd'hui d'Écossais qui veuillent prendre le risque de quitter la tutelle de Londres pour les avantages du maintien dans l'Union européenne. Pour l'instant, les sondages sont quasiment à 50-50, ce qui est déjà plus que 55-45 d'il y a deux ans.
Mais les sondages s'étaient trompés au moment du référendum de 2014, comme ils se sont trompés d'ailleurs au moment du... Enfin, c'était trompé, je n'en sais rien, mais en tout cas, les résultats des sondages n'avaient pas été vérifiés ou par les électeurs.
Dans le cas du référendum écossais, ils n'avaient pas été si mauvais. Ils avaient été assez proches du résultat. Il n'y en avait qu'un sur les centaines qui ont eu lieu pendant les deux années précédentes, il n'y en avait qu'un qui avait donné un très léger avantage à l'indépendance.
Si l'Écosse est indépendante, on pourra peut-être restaurer le vieux traité, la vieille alliance, l'Old Alliance, c'est quoi, 1295 ou quelque chose de cette nature. J'ai un de mes amis écossais qui l'avait évoqué pour pouvoir passer en France sans passeport, avec une copie du traité. Thierry Pêche.
Oui, dans l'Union européenne telle qu'elle était ces dernières années, telle qu'elle va cesser d'être à partir du moment où l'article 50 aura été activé pour faire sortir la Grande-Bretagne, il y avait un triangle un peu assez magique qui était Paris, Berlin, Londres. Finalement, la présence de Londres arrangeait tout le monde dans ce triangle. Londres était, pour Paris, libéral mais keynésien dans sa gestion des déficits, de la politique monétaire. Pour Berlin, Londres était keynésien mais libéral. Et on pouvait dire à Paris, jouer de Londres contre Paris pour imposer un certain nombre de choses. Et puis pour Londres, le jeu franco-allemand et la capacité de le perturber donnaient une possibilité d'agir sur ce qui se passe sur le continent. Tout le monde a en mémoire la phrase de Margaret Thatcher, tous les problèmes viennent du continent, les solutions viennent d'ailleurs. Donc la politique étrangère britannique, et d'ailleurs on n'a pas attendu Margaret Thatcher, a beaucoup consisté à diviser le continent pour assurer la tranquillité du Royaume-Uni. Comment vont-ils faire demain, en dehors de l'Union européenne, pour intervenir dans les affaires du continent? Qu'est-ce que ça signifie pour la politique étrangère britannique à un moment où la relation spéciale est... comment dire, très prisé en Grande-Bretagne, mais aux États-Unis, en réalité, personne ne sait trop ce que c'est, la relation spéciale. C'est une affaire britannique, ça fait surtout plaisir aux Britanniques, cette affaire. Deuxième question, que pensez-vous, vous avez parlé de la dépendance de l'Écosse à l'Angleterre, que pensez-vous de la dépendance du Royaume-Uni au reste du monde en matière d'approvisionnement? On voit l'inflation augmenter sur les denrées alimentaires, il y a une très grande dépendance de ce pays au reste du monde. Est-ce que c'est bien raisonnable tout ça?
Pauline Schnapper.
Alors, sur le premier point, la politique étrangère, c'est évidemment un gros problème, et c'est une des raisons pour lesquelles les diplomates britanniques sont absolument atterrés par le résultat du référendum. Ils savent très bien que leur influence en Europe, au minimum, sera réduite. Le principal canal qui va rester, c'est l'OTAN, à condition, bien sûr, que l'OTAN ne soit pas détruite par Donald Trump. Donc c'est là un vrai problème pour les Britanniques. Je pense que ce qu'ils vont rechercher au cours des négociations des deux années qui viennent, c'est de rester quand même dans une relation de coopération aussi étroite que possible en matière de politique étrangère et peut-être de défense, au-delà de la relation bilatérale avec la France. mais une coopération informelle quoi, de l'extérieur. Il y a quand même beaucoup d'intérêts communs. Je pense par exemple au problème russe, où Londres est sur une ligne tout à fait proche de celle de Paris et de Berlin, et où donc les autres pays de l'Union européenne auront intérêt, il me semble, à continuer à parler d'une seule voix avec les Britanniques. Donc je ne pense pas que, si vous voulez, la coopération en matière de politique étrangère va s'arrêter du jour au lendemain, le jour où le Royaume-Uni sortira de l'Union. Personne n'y a intérêt. Mais en revanche, dans ce dont vous parlez, j'allais dire, peut-être la dimension, j'allais dire, quotidienne, enfin en tout cas dans la petite cuisine interne européenne, l'absence de Londres aura sûrement des conséquences.
Mais vous considérez que c'est une perte d'influence historique pour le Royaume-Uni ?
Ah, moi, je pense.
Comparable à la crise de Suez ? Pire que la crise de Suez ?
Je ne suis pas bonne pour les prévisions. Hein. Mais enfin, il me semble que c'est quelque chose qui a été tout à fait sous-estimé, par les élites britanniques, mais par la population. Ce n'est pas du tout quelque chose qui a été débattu, par exemple, pendant la campagne référendaire. Mais ça sera une des conséquences.
Nicole Nisotto.
J'ai pas répondu à la deuxième question.
C'est vrai.
Je vais embrayer parce que je voulais justement parler de ce projet de Madame May de remplacer l'Angleterre européenne par le Global Britain, l'Angleterre qui abandonnerait son influence en Europe, parce que ça c'est peanuts, pour devenir une grande puissance de la mondialisation. Le thème du Global Britain est, je crois, le nouveau slogan de Madame May. Et d'ailleurs, elle peut tabler sur un certain nombre d'atouts importants, la puissance militaire, la puissance nucléaire. Entre parenthèses, sur l'Écosse, le problème qui peut compliquer la chose, c'est que les capacités nucléaires du Royaume-Uni sont en Écosse. Donc ça risque de rendre l'indépendance de l'Écosse assez difficile à mon sens. Mais enfin bon, elle peut compter, c'est vrai que la Grande-Bretagne a des atouts dans le monde, elle a la City, elle a le soutien de Donald Trump, et donc on peut penser que ça a un sens de parler du Global Britain. La difficulté, je crois, mais je voudrais vous interroger là-dessus, c'est que finalement les Anglais n'ont pas de chance, c'est-à-dire ils quittent l'Europe au moment où les États-Unis trahissent les piliers du libéralisme économique qui sont le cœur de la puissance britannique, au moment où Trump dit le protectionnisme c'est pas si mal, et puis l'OTAN qui est le seul cercle où les Anglais peuvent encore avoir une influence en Europe, l'OTAN on verra ce que ça donnera. Et donc je ne sais pas si cela suscite un débat, en tout cas au moins dans les élites dirigeantes britanniques, mais c'est vrai que on voit mal quel pourrait être aujourd'hui le slogan, ou en tout cas le narratif, pour prendre un mot à la mode, qui pourrait réconcilier les Britanniques avec eux-mêmes, avec leur tradition d'immense puissance maritime. Alors, ils ont le Commonwealth, bien sûr, mais enfin bon, c'est pas grand-chose. Et donc, voilà, est-ce qu'en perdant leur intégration dans l'Union européenne, ils ne se mettent pas pieds et poings liés comme une énième province américaine ? La seule chance, me semble-t-il, des Anglais d'exister, c'est d'être pratiquement un État américain.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que c'est une énorme illusion qui est entretenue depuis un an à peu près. Mais en réalité, c'est une espèce de référence à ce qu'on appelle l'anglosphère, cette espèce de mythe d'une communauté qui irait du Canada et des États-Unis jusqu'à la Nouvelle-Zélande et qui suffirait à compenser la perte du marché européen, pour faire court. Je crois que c'est un mythe absolu, mais ça a été exploité, là encore, donc d'abord par les partisans du Brexit pendant toute la campagne, depuis, j'allais dire, les conservateurs les plus respectables jusqu'à l'extrême droite la plus déchaînée. C'était l'idée que non seulement on ne perdait rien en sortant de l'Union européenne, qui est en plein déclin et qui de toute façon va exploser dans les années qui viennent, mais on gagnerait des nouveaux marchés. Cette idée de Global Britain, c'est d'abord la première idée qui vient quand il parle de ça, c'est le commerce quand même. C'est les nouveaux accords de libre-échange avec les pays émergents, avec la Chine, avec l'Inde, qui fait rêver cette espèce de... Voilà, ça va remplacer ces économies défaillantes du continent. Mais effectivement, ça arrive à un moment où, j'allais dire, le libre-échange n'est plus à la mode, en tout cas dans le discours, y compris du président américain. Donc ça c'est un tournant peut-être crucial dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un peu paradoxal, évidemment, d'aller serrer la pince à Donald Trump au moment même où on proclame un Global Britain, et en faisant semblant de ne pas avoir la contradiction qu'il y a entre les deux. Et il y a eu effectivement un débat assez vif au Parlement et dans la presse britannique, disons, de qualité, quand Theresa May s'est précipitée à Washington pour faire des grâces à Donald Trump, au moment même où il faisait des déclarations, certes favorables au Royaume-Uni, mais totalement contraires à tous les principes sur lesquels Theresa May prétendait s'appuyer. Donc il y a là, je suis absolument d'accord avec vous, une contradiction qui, pour l'instant, est noyée sous cette espèce de discours un peu démagogique, mais qui va finir un jour par quand même leur sauter à la figure. C'est-à-dire que, on l'a vu déjà un tout petit peu cet automne, quand Theresa May est aussi allée en Inde, expliquer au Premier ministre indien qu'on allait signer très rapidement un magnifique accord de libre-échange. Et elle a été reçue assez froidement par le Premier ministre indien qui lui a dit, bah, écoutez, commencez par ouvrir davantage de visas aux ressortissants indiens. Et comme elle a dit non tout de suite, la conversation s'est arrêtée là. Et je crois qu'on a là un premier signe de tension qui risque d'arriver plus tard.
Michaela Wiegel.
Oui, je voulais revenir au sujet de la défense, parce que Thierry a tout à l'heure mentionné l'idée du triangle. J'avais l'impression que pour la France, quand il s'agissait d'économie, de monnaie, c'était surtout l'Allemagne, le partenaire privilégié. Mais pour la défense, c'était toujours la Grande-Bretagne, même si on a vu justement...
Faute de mieux, Michaela.
Oui, justement, j'allais le dire, même si l'Allemagne a fait un grand pas vers la France, et on a vu même que maintenant, avec la perspective du Brexit, on s'est concerté pour créer finalement ce fameux état-major. Mais il semblerait quand même que, quand j'entends les spécialistes de la défense français, ils disent toujours... il faudrait garder les Britanniques dedans, en quelque sorte. Le faire à l'extérieur, en quelque sorte, des structures européennes, mais garder un axe avec la Grande-Bretagne. Et je voulais voir comment vous évaluez cette possibilité, c'est-à-dire après un Brexit, quand même, garder une forte... Au-delà de l'OTAN, dont on ne sait pas trop bien comment ça va évoluer avec les États-Unis, mais aussi avec la Turquie. Enfin, c'est quand même très complexe en ce moment, l'avenir de l'OTAN.
Pauline Schnapper.
Moi, je crois que Nicole serait plus compétente que moi pour répondre à cette question. Mais c'est vrai que la coopération bilatérale, donc, et non pas européenne, entre la France et le Royaume-Uni, s'est développée de façon très spectaculaire depuis notamment les accords donc, de 2010. Et en fait, ça remonte plus loin, c'est depuis la Bosnie, en fait, qu'il y a eu un travail en commun sur le terrain qui a développé des relations au niveau militaire, puis au niveau politique, qui se sont nettement approfondies et qui sont liées aussi au fait, bien sûr, que ce sont les deux puissances nucléaires et les deux membres permanents du Conseil de sécurité qui représentent un petit peu l'Europe au Conseil de sécurité. Et depuis le référendum, ce qui est assez frappant, c'est que tant du côté français que surtout, moi je vois surtout le côté britannique, tout le monde s'est précipité pour dire ça ne changera rien, y compris les Britanniques, hein, ça ne changera rien aux accords de défense franco-britanniques. Nous voulons absolument garder ça et ce n'est pas un problème puisque ce sont des accords bilatéraux. Alors, bon, après, la réalité politique changera peut-être dans les années qui viennent, mais en tout cas, il y a clairement des deux côtés de la Manche la volonté de garder cette coopération parce que, en tout cas, j'allais dire jusqu'au moment où l'Allemagne serait en position de prendre le relais, mais je crois que c'est pas pour tout de suite. Hein. Donc pour l'instant, ça reste, je crois, une priorité des deux côtés.
L'Allemagne peut compter sur notre patience. Nicole Niesoto.
Justement, c'est vrai que le bilatéral n'est pas affecté par les relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Donc les accords de Hampton Court qui régissent la coopération militaire entre la France et la Grande-Bretagne vont rester, vont même peut-être se développer. Ça n'est pas à exclure, ça dépendra du prochain président de la République. Mais pour ce qui concerne la participation de la Grande-Bretagne à ce qui pourrait se développer au sein de la défense européenne, je crois que les Anglais se font des illusions. En tout cas, les Français défendront l'idée que non. C'est-à-dire, soit on est membre de l'Union et on participe à la défense européenne, soit on ne l'est pas et on est comme les Norvégiens. C'est-à-dire, on peut parfaitement être associé à certaines opérations, à certaines choses, mais on n'a plus le droit de veto que les Britanniques avaient jusqu'à maintenant. Donc, je crois que là, ils ont perdu également en matière de sécurité et de défense. Et même si les menaces augmentent, je crois que ça ne sera pas un argument pour que les Britanniques essayent de rentrer par la petite porte quand ils sont sortis par la grande. Mais moi, je voudrais, si je peux, poser une question, revenir un peu à la politique intérieure britannique et à l'avenir de ces forces politiques, et en posant une question sur le Parti travailliste. Parce que moi, je n'ai pas compris pourquoi le Parti travailliste de M. Corbyn avait fait une campagne si faible, si inaudible. Les travaillistes ont toujours été, enfin pas toujours, mais ont été, vous l'avez rappelé, pro-européens, alors que les conservateurs étaient plutôt eurosceptiques. D'ailleurs, pour la France, c'était compliqué, parce que les conservateurs étaient eurosceptiques, mais pro-nucléaires, alors que les travaillistes étaient anti-nucléaires, mais pro-européens. Donc ça ne nous a pas facilité les choses. Mais en tout cas, je n'ai pas compris pourquoi M. Corbyn a fait cette campagne si inexistante. Et donc, ce que je ne comprends pas, c'est est-ce que pour l'avenir, dans la recomposition des forces politiques, est-ce que pour l'avenir, le Parti travailliste va intégrer l'euroscepticisme dans son ADN, ou est-ce qu'on peut supposer dans 10 ans, dans 20 ans, que de nouveau un parti européen apparaisse en Grande-Bretagne ?
Pauline Schlapper.
Alors, c'est une question extrêmement intéressante et que j'aurais dû soulever tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps. C'est un des éléments, j'allais dire, de la tragédie du référendum, c'est l'absence du parti travailliste pendant la campagne et depuis. Alors, comment on peut expliquer ça ? Pour une fois, je crois qu'il faut vraiment... on peut personnaliser la question. C'est-à-dire que la personnalité du leader, Jeremy Corbyn, donc élu après la défaite de 2015, a été une catastrophe. Pourquoi ? Parce que, outre tous ces autres défauts, Jeremy Corbyn est un anti-européen. Classique, j'allais dire. Il vient de la tradition anti-européenne à laquelle j'ai fait très brièvement allusion du Parti travailliste des années 60-70. C'est quelqu'un qui avait voté, dans le premier référendum en 75, qui avait voté pour sortir de l'Union, de ce qui était alors la communauté européenne. Il vient de cette aile gauche anti-européenne du Parti travailliste, qui repose sur l'idée que finalement l'Europe c'est du capitalisme, c'est du néolibéralisme, ça ne protège pas les ouvriers, enfin bon, bref, c'est quelqu'un qui était absolument pas représentatif de la vision générale des élus travaillistes. Premier élément. Les élus sont beaucoup plus pro-européens que leurs leaders, c'est un de leurs nombreux problèmes. Deuxième problème, l'électorat travailliste est beaucoup moins unanime sur la question européenne que les élus. En d'autres termes, ce que le référendum a montré, c'est qu'il y a eu quand même un tiers des électeurs travaillistes pour voter pour le Brexit. Et ça explique non pas tant la position du parti pendant la campagne référendaire que sa position aujourd'hui, par exemple sur l'activation de l'article 50. Où quand même le Parti travailliste a été d'une faiblesse au Parlement incroyable. Ils ont suivi les conservateurs, ils ont voté pour l'activation de l'article 50, quand bien même ils sont tous absolument effondrés à l'idée de sortir de l'Union européenne. Pourquoi ça ? Parce que une bonne partie des circonscriptions travaillistes, en particulier celles du Nord, de l'Angleterre pauvre, leurs électeurs ont voté pour sortir. Et donc ils se retrouvent dans une situation coincée entre leurs convictions et leurs inquiétudes sur leur réélection aux prochaines législatives. Donc je crois que ça explique la faiblesse du Parti travailliste pendant toute cette période, qui par ailleurs est dans un état de crise permanente et qui ne joue pas son rôle d'opposant en ce moment, pas seulement sur la question européenne, mais dans l'ensemble.
Thierry Pêche.
Enfin, on a envie de vous dire, vous dites la réponse c'est Corbyn, on a envie de dire ouais, d'où vient Corbyn ? Corbyn ne surgit pas de nulle part. Je réserve mon temps de parole pour une autre question, c'est pas là-dessus que je voulais intervenir. Mais allez-y si vous voulez.
Alors je termine juste là-dessus. Corbyn a été élu par une nouvelle masse de militants qui ont été attirés par un changement de règles pour devenir militant, où il suffit désormais de payer 5 livres. Et non pas les sommes assez importantes qu'il fallait avant tous les ans pour rester membre du parti, pour devenir membre. Et donc, entre 2010 et 2015, il y a eu un afflux de nouveaux membres du Parti travailliste qui viennent essentiellement de la gauche, voire l'extrême gauche. C'est-à-dire des gens qui soit avaient quitté le parti à cause de Blair, qui ne se reconnaissaient plus dans le New Labour de Blair, donc plutôt des électeurs âgés, qui se rappelaient le Parti travailliste des années 70 et qui étaient voulaient revenir à ce Old Labour-là, ou alors par des jeunes. Il y a aussi de jeunes nouveaux membres, plutôt radicaux, si vous voulez. Et donc, Corbyn a été élu à une large majorité par ces nouveaux adhérents-là, qui contrôlent le Parti travailliste, mais qui sont absolument pas représentatifs de l'électeur travailliste moyen, et a fortiori de l'opinion publique en général.
Alors Thierry Pêche, pour ça.
Ma question était double. Je voulais relancer la question sur ce que je vais appeler la crise de la laitue. Hein, vous avez suivi cet épisode. Il n'y a plus de laitue cristal dans les magasins à Londres parce que il y a une très grande dépendance de Londres au reste de l'Europe pour son alimentation et notamment aux laitues espagnoles. Bon, c'est juste un symbole pour vous relancer sur le sujet de l'extrême dépendance de l'économie britannique. Et l'autre question, c'est que répondez-vous aux populistes du continent qui disent « Mais le Brexit, regardez, on nous annonçait la catastrophe, c'est pas du tout une catastrophe, tout se passe très bien ». Vous dites quoi? Vous dites « Oui, ça se passe bien parce que ça n'a pas commencé » ou vous dites « En effet, ça se passe pas si mal ».
Alors, effectivement, pour l'instant, la principale conséquence économique qu'on a vue depuis juin a été simplement la baisse donc de la livre sterling, qui a quand même perdu à peu près 15% depuis juin, et du coup une hausse du coût des importations, dont, comme vous dites, le Royaume-Uni est particulièrement dépendant, notamment, entre autres, pour les biens de consommation les plus courants. Plus rien ne pousse et plus rien ne se coud, je parle de vêtements, au Royaume-Uni. Donc tout ça est importé. Donc pour l'instant, effectivement, c'est le principal effet visible. Et qui reste malgré tout assez modéré, mais on pense que l'inflation va continuer à monter, donc ça sera peut-être plus visible encore dans les mois et les années qui viennent.
Mais pour l'instant, 2% pour le moment.
Ça reste assez limité. Pour le reste, les investissements ont continué, la consommation surtout, sur laquelle repose beaucoup la croissance, a continué. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer d'ici 2 ans, 3 ans? C'est là où l'incertitude demeure, parce que, comme vous l'avez dit, le Brexit, il n'a pas encore eu lieu. Donc, pour l'instant, les seules conséquences qu'il pouvait y avoir, c'était soit des inquiétudes qui auraient mené, par exemple, à des entreprises à dire « Bon, bah, je cesse tous mes investissements au Royaume-Uni, je déménage mes employés de la City à Francfort » ou des choses comme ça, qui n'ont pour l'instant pas vraiment eu lieu. De façon un peu anecdotique, il y a 2-3 petits exemples de gens qui ont commencé à dire HSBC, je crois, rapatrie 1000 personnes. Enfin bon, ça reste pour l'instant pas de nature à modifier fondamentalement la situation économique, mais on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans les années qui viennent. Alors moi, en plus, je ne suis pas économiste, donc je me garderai bien de vous faire des pronostics, mais je crois vraiment qu'il est beaucoup trop tôt pour évaluer les conséquences économiques du Brexit. Et notamment, elles dépendront quand même assez largement du type d'accord qui est négocié. L'accès ou non au marché commun va quand même avoir des conséquences. Alors, soit il y aura un accès et donc les conséquences seront minimes, soit si vraiment les voitures construites en Angleterre doivent payer des droits de douane pour être vendues en France. Là, on voit mal comment les constructeurs internationaux continueront à les construire au Royaume-Uni.
Surtout
alors, c'est pas sur l'année qui vient, mais à horizon 10-20 ans.
Surtout si les entreprises de la City perdent leur passeport financier dans la zone euro. C'est surtout le gros risque.
Michael Avigal.
Oui, comme Thierry a déjà posé la question sur les populistes, parce que c'est vrai, c'est agaçant de constater qu'on a, dans cette année électorale pour l'Europe, on n'a quasiment pas d'arguments tangibles aujourd'hui à opposer à ceux qui disent ben, finalement, ça se passe bien. J'aimerais vous demander si vous voyez dans l'avenir proche la possibilité qu'une force très pro-européenne émerge. Pour l'instant, on a l'impression que c'est que des petits étincelles, mais que ça ne donne pas quelque chose qui puisse vraiment devenir une force politique en soi. Je dis ça parce qu'on a l'impression qu'aux États-Unis, quand même, il y a un éveil critique, en quelque sorte, Ça m'intéresserait comment vous le jugez.
Une question complémentaire, un peu tirée par les cheveux, mais complémentaire quand même. Vous avez parlé tout à l'heure de l'état du Parti travailliste. Le Parti travailliste avait choisi de se positionner à gauche une première fois en choisissant l'un des deux frères Miliband. Ça l'a conduit à un échec électoral. Ce qui l'a conduit à se positionner encore plus à gauche. Jeremy Corbyn est plus à gauche que son prédécesseur. Vous avez parlé du décalage entre l'appareil du parti ou le gros des militants actifs et les électeurs. Est-ce que dans cette situation, il y a quelque chose d'envisageable qui ressemblerait, toute chose égale par ailleurs, à la situation de la gauche de gouvernement française, c'est-à-dire à un éclatement ou à une implosion du parti?
Alors, c'est une question qui s'est posée évidemment ces derniers mois et qui a été un peu alimentée par l'idée, le souhait, le rêve de certains, par exemple les libéraux-démocrates, donc le troisième parti, le parti centriste, qui est le parti le plus pro-européen, qui a dit mais en fait il faut recomposer les partis. Donc il y a des échos quand même avec ce qui se passe dans notre campagne électorale. Il faut recréer un parti central avec les députés travaillistes qui se sentent trahis par Corbyn, les libéraux-démocrates, les quelques conservateurs pro-européens qui restent.
Comment on dit En Marche en anglais?
Et donc on a entendu, je dirais, là, encore à l'automne, encouragé par des gens comme Tony Blair, évidemment, qui rêvent de ça, de cette recomposition. Moi, je n'y crois pas du tout. Et pourquoi je n'y crois pas? À cause du mode de scrutin. Je crois qu'il faut jamais sous-estimer le rôle politique des modes de scrutin. Le mode de scrutin est encore plus rigide que le nôtre, outre-Manche. Hein. Donc c'est un mode de scrutin majoritaire à un tour. Donc c'est l'extrême de l'extrême du mode de scrutin majoritaire qui lamine les petits partis. Et donc l'idée de créer... Ça a été essayé en 81, il y a eu une scission du Parti travailliste. La frange, à l'époque pro-européenne, est sortie, a créé un parti social-démocrate, s'est allié aux libéraux, et ils se sont écroulés aux élections législatives suivantes. Ça ne peut pas marcher dans le système politique britannique, qui pousse les hommes politiques à continuer à se regrouper dans des grands partis. C'est peut-être la différence avec le système français qu'on est en train de voir s'écrouler. Le système de partis au Royaume-Uni est consolidé, maintenu à flot, par le mode de scrutin qui empêche les petits partis d'avoir des élus. Et comme on voit mal le Parti conservateur qui caracole dans les sondages à presque 40% des voix s'écrouler, l'intérêt des travaillistes, c'est quand même de rester dans le parti. Et c'est pour ça que les députés pro-européens rongent leurs freins en ce moment, en attendant la prochaine élection, la défaite de Corbyn, et qu'enfin on puisse le remplacer par un leader plus... plus centriste.
Ma question que d'ici l'a étouffé la question de Michaela, je la rends pour que vous puissiez y répondre.
Je crois y avoir répondu, c'est-à-dire que les pro-européens en ce moment sont absolument désespérés, mais ils sont aussi très minoritaires. J'ai parlé du mode de scrutin, mais on en revient à la culture politique dont on a parlé plus tôt. Il y a une espèce de... ça représente en pourcentage de l'électorat, ça reste très très faible. Et les gens vraiment désespérés par le Brexit et qui voudraient absolument essayer de l'empêcher, ils sont très minoritaires aujourd'hui.
Thierry Pêche.
Je suis très intéressé par ce que vous avez dit sur l'influence du mode de scrutin sur la structure et les pratiques politiques. Je crois que c'est très vrai en France aussi. Le scrutin majoritaire à deux tours a évidemment des caractéristiques terrible parce que c'est malheur aux vaincus, comme en Grande-Bretagne. Mais ma question, c'est, est-ce que vous pensez pas justement que ces institutions favorisent ce caractère de club qu'a la vie politique britannique? On a l'impression que c'est un club de gens bien qui décident pour le pays. Et tout à coup, le Brexit montre quand même que monte dans le pays une vague d'insatisfaction, d'exaspération considérable que personne ne s'est attrapé. Au fond, Theresa May a attrapé les choses, mais tous ces discours reposent sur des sophismes en réalité, parce qu'elle dit moi je vais m'occuper des petits, des pauvres, enfin c'est quand même pour les conservateurs c'est assez spectaculaire, et puis quand on voit la politique mise en place, politique d'austérité etc, c'est pas du tout ce qui se passe. Quand on voit les difficultés qu'il y a sur le logement, je crois que l'OCDE a produit des chiffres qui montrent que nulle part dans le monde le logement est aussi cher qu'en Grande-Bretagne, en pole position, en numéro 2 d'ailleurs c'est la France, c'est quand même assez intéressant en pourcentage du PIB,
le sud, mais, bon, vous donc, allez vous loger dans le nord de l'Angleterre, ça reste très très
effectivement,
abordable.
Vous avez observé que peu de gens cherchent à aller se loger dans le nord de l'Angleterre.
On
se demande bien pourquoi. On se demande bien pourquoi. Mais on pourrait donner d'autres exemples, les travailleurs pauvres, etc. Donc, au fond, est-ce que ces institutions politiques n'ont pas créé une espèce de club politique en apesanteur au-dessus de la société et qui ne laisse pas, ne permet pas finalement à la classe politique d'être poreuse, d'être réceptive, d'être, perméable à ce qui se passe dans la société britannique.
Pauline Tout Schaffer. À fait, je crois que c'est une des dimensions cruciales de compréhension du vote pour le Brexit, qui, comme je disais, n'avait que très partiellement à voir avec l'Europe et beaucoup avec l'état du pays. Il y a un sentiment, vous appelez ça, oui, un club, c'est une façon tout à fait de représenter cela, de beaucoup de... j'allais dire provinciaux, parce que c'est beaucoup une opposition entre Londres, pris au sens large, hein, du sud-est de l'Angleterre et du reste du pays, que cette classe politique ne sait plus répondre aux attentes. Ça a commencé, il y a eu un événement, non pas déclencheur, mais enfin, en tout cas qui a accentué ce mouvement, qui est le scandale sur les dépenses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2009, il y a eu un scandale
sur les
frais des députés de parlementaires qui faisaient financer par des fonds publics des dépenses personnelles qui ont abouti à des démissions en masse, même quelques emprisonnements pour une paire de députés, et qui ont, je ne dirais pas créer ce mouvement de défiance, mais en tout cas alimenter et augmenter un mouvement de défiance vis-à-vis de la classe politique qui n'est pas propre au Royaume-Uni, je veux dire, on le connaît sur le continent aussi.
Nous approchons de la fin de l'émission et comme vous enseignez la civilisation britannique, Pauline Schnapper, je voudrais vous poser une question. Quel est à votre avis le point principal de l'incompréhension entre la France et la Grande-Bretagne? De quoi aimeriez-vous convaincre les Français?
Alors, jusqu'au référendum, j'essayais d'expliquer aux Français que les Britanniques avaient une autre notion de l'Europe, mais qui n'était pas forcément anti-européen. Ce discours devient un petit peu difficile à tenir, donc je me tiendrai peut-être à une plus grande prudence aujourd'hui.
Et à l'inverse, de quelles caractéristiques françaises aimeriez-vous persuader les Britanniques qu'elles méritent leur considération, leur sympathie, leur intérêt?
Je veux dire, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Dans ce sens-là, je crois que les relations restent fortes entre les deux pays. Il faut espérer qu'elles le resteront. Je ne suis pas sûre qu'il faille convaincre les Britanniques de quoi que ce soit, puisque ils ont leurs idées. Et puis, ils viennent s'installer, prendre leur retraite dans le sud-ouest. Et ils n'arrêteront pas de le faire, je pense, après le Brexit.
Ah, ça, c'est une affaire qui me semble-t-il, comme d'ailleurs dans l'autre sens pour les...
Est-ce qu'on peut suggérer une réponse à notre invité? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait convaincre chacune des deux rives de la Manche que les gens se ressemblent beaucoup plus qu'ils ne le pensent?
Oui, en tout cas que les Britanniques sont plus européens qu'ils ne le pensent. Ça, j'en suis vraiment convaincue. Qu'ils partagent en réalité beaucoup plus de choses, j'allais dire, importantes, de valeurs en particulier, que par exemple avec les Américains.
Merci Pauline Schnapper. Nos auditeurs ont maintenant rendez-vous avec Alain Crugère, qui lui s'intéresse au Japon et qui reçoit une traductrice qui va évoquer... avec lui, le Japon, et j'imagine sa gastronomie. C'était donc L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard-Roudex et Mathilde Cadreau, avec aujourd'hui à la technique Benjamin Vignal. La semaine prochaine, ce sera la seconde émission thématique de printemps, et après l'Angleterre, nous allons nous intéresser à l'Allemagne, avec Hans Stark, qui est le secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI. J'espère donc vous retrouver la semaine prochaine pour cette seconde thématique.